الانترفيو
ضيفنا اليوم جون لوك غيفرو ممثل البنك الاوروبي للاستثمار في تونس, وحديثنا باش يكون حول البنك ودعمه لتونس استثماراته في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. هذاك علاش رحبوا بضيفنا مسيو جون لوك غيفرو. bienvenue parmi nous.
Bonjour Rim, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 6,7 milliards d'euros ont été alloués au financement de 130 projets, dont 2,4 milliards d'euros mobilisés entre 2011 et 2021, des montants relativement élevés. Comment est-ce qu'on peut évaluer les projets et les activités de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, pendant ces 42 ans de coopération avec la Tunisie aujourd'hui?
Alors, merci pour la question. Je crois qu'au-delà des montants, parce que les montants, ils ne veulent pas dire grand-chose, hein, ce sont des milliards d'euros, on a du mal un petit peu à se représenter ce que ça veut dire sur le terrain. Donc je crois que c'est plus important, effectivement, de parler des projets qu'on a financés et de l'impact que ces projets peuvent avoir sur les conditions de vie des Tunisiens. Parce que c'est finalement notre but ici, c'est de financer des projets qui améliorent le quotidien des Tunisiens, qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui améliore les infrastructures publiques. Donc si on regarde un petit peu le portefeuille de la BEI qui s'est développé, qui s'est constitué au cours des 40 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a énormément de projets qui ont été financés à travers tout le territoire. Et d'ailleurs, quand on se promène en Tunisie, on arrive à voir des petites pancartes financées par la BEI et d'autres, hein, l'Union européenne et les autres agences de développement. Et qui ont réellement un impact sur la vie quotidienne. Alors, à titre d'exemple, je peux citer la rénovation d'un certain nombre de quartiers populaires dans plusieurs communes tunisiennes. On a une opération de financement avec l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine qui consiste à rénover un certain nombre de quartiers qui étaient défavorisés au niveau des infrastructures. Mmh. Donc on parle de choses très concrètes, hein. On parle d'assainissement, de voirie, d'éclairage public, des choses très, très basiques.
Alors, j'ai remarqué que vous êtes la BEI d'une manière générale et on est vraiment fiers, hein, de la rénovation d'écoles, de quartiers.
Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que ça touche vraiment les populations, je dirais, dispersées à travers tout le territoire et pas simplement la côte, la zone côtière ou la capitale. Donc ça, c'est un exemple, la rénovation de quartiers d'habitation. Les écoles que vous venez de citer, ça c'est un autre exemple aussi dont on est très fiers, c'est-à-dire qu'on a à peu près 400 collèges et lycées à travers tout le pays qui sont rénovés grâce à une opération qu'on mène conjointement avec le ministère de l'Éducation, l'Union européenne et la KfW. Donc là, ce sont des choses très concrètes. Quand on va voir les écoles avant rénovation, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lumière dans les classes, qu'il n'y a pas de toilettes des fois dans les écoles, que les vitres sont cassées, qu'il fait froid, qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir étudier et travailler convenablement. Qu'on rénove ces écoles et qu'on a un résultat ensuite qui permet aux élèves de disposer d'outils de travail qui leur permettent de se concentrer sur les études plutôt que d'avoir froid dans la classe. Ça fait plaisir quelque part. C'est pour ça qu'on est là.
Donc si on revient, enfin comme je l'ai déjà mentionné, vous en êtes vraiment fiers. C'est pour ça que chaque fois vous insistez sur cette catégorie de projets. Mais d'une manière générale, sur les 42 ans, comment vous avez vu tout ce parcours-là, et plus spécifiquement les 11 ou 10 dernières années?
Alors, effectivement, la situation d'aujourd'hui, elle découle des 40 années d'activité, puisqu'on est une institution qui finance des projets sur le long terme. Donc c'est très difficile de juger vraiment sur les 3 dernières années ou sur le court terme. Encore une fois, quelques infrastructures qu'on utilise aujourd'hui, par exemple l'autoroute entre Tunis, Sfax, Gabès, ce sont des projets qu'on a financés il y a presque 20 ans, enfin qu'on a commencé à financer il y a presque 20 ans et qu'on voit juste se réaliser maintenant. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années, c'était d'essayer d'accompagner le pays dans sa transition démocratique en répondant aux besoins du pays. Encore une fois, nous, on est une banque qui répondant à la fois aux objectifs de l'Union européenne, mais qui répondent aussi aux besoins du pays. On ne va pas forcer le pays à s'endetter ou à prendre des directions qu'il ne souhaite pas prendre. Donc, au cours des dernières années, on a énormément financé d'investissements dans le secteur de la mobilité. Donc, ce qu'on appelle mobilité, c'est les transports urbain notamment. On peut citer le RFR par exemple, qui est un projet dont on parle beaucoup.
Qui n'a pas encore vu le jour.
Qui est sur le point de voir le jour. On arrive, et là, c'est un projet qui a connu quelques difficultés, comme on le sait tous. Il continue d'en connaître. Mais on arrive au bout de ce processus et on espère qu'au moins la ligne E sera mise en service dans les semaines qui viennent. Donc la mobilité urbaine, ça reste un secteur très important. Quand on voit la congestion dans les grandes villes tunisiennes, on essaye de développer ce secteur. La mobilité intercité régionale dans tous les gouvernorats. Donc ça, c'est essentiellement les grandes infrastructures routières et autoroutières qui ont été rénovées et construites au cours des 10 dernières années. On essaye également de développer le transport ferroviaire. On voit bien la situation du réseau ferroviaire en Tunisie. On a vu encore les accidents récents qui se sont produits, heureusement sans faire de victimes. Là encore, on a travaillé depuis plusieurs années avec la SNCFT et le ministère des Transports pour identifier des investissements qui sont nécessaires pour sécuriser le réseau. Donc là, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire davantage. Et encore une fois, on peut préparer les projets, on peut commencer à mobiliser ce qu'on appelle l'assistance technique pour faire les études sur tous ces projets, mais à la fin, la décision d'emprunter pour réaliser les investissements, elle ne nous appartient pas, elle appartient au gouvernement tunisien. Nous, on est juste là disponible pour dire, voilà, on est prêt à financer ce type de projet si vous le souhaitez.
Alors, puisque vous parlez de type de projet, justement, on aimerait bien savoir quels sont les grands types de projets, ou plus précisément, les types de prêts ou d'emprunts. On parle beaucoup d'emprunts publics, essentiellement, mais il n'y a pas que ça, justement.
Il n'y a pas que ça, ça représente à peu près 2/3 de notre portefeuille actuel, les prêts au secteur public, qui inclut les prêts à l'État en direct et les prêts aux entreprises publiques, la STEG, la SONED, l'ONAS et toutes les agences publiques. Mais il y a également 1/3 de notre portefeuille qui est constitué d'opérations avec le secteur privé ou l'industrie tunisienne. Donc pour industrie, on inclut aussi l'industrie des phosphates ou l'industrie du gaz. Anciennement, on pouvait financer le gaz, mais ça, on pourrait revenir puisqu'on
a changé de politique.
On a changé un petit peu de politique dans le secteur de l'énergie. Et également des prêts pour soutenir le secteur privé à travers les banques tunisiennes. On avait dans le passé un certain nombre de lignes de crédit qui étaient offertes à toutes les banques tunisiennes et qui permettaient de financer plusieurs centaines de petites et moyennes entreprises tunisiennes dans leurs besoins d'investissement, dans leur plan de financement d'investissement.
Mais actuellement, ça n'existe plus.
Alors, ces lignes, elles sont toujours en cours, c'est-à-dire qu'elles sont toujours utilisées par les PME, donc il y a toujours un certain nombre de PME qui en bénéficient. Simplement, elles sont toutes utilisées, il n'y en a plus de disponibles. Et on était en discussion, effectivement, pour mettre en place de nouvelles lignes de crédit, mais on se heurte à deux obstacles, essentiellement. Le premier, c'est un obstacle de risque de change, puisque la BEI, au même titre que d'autres institutions internationales, ne peut pas prêter en dinars. Donc on ne peut prêter qu'en devises étrangères, que ce soit des euros, des dollars ou d'autres devises, alors que les besoins de financement des PME sont plutôt en dinars, bien sûr. Ce qui veut dire que l'intermédiaire financier, la banque, prend un risque de change. Et ce risque de change, il est devenu maintenant assez coûteux. Se couvrir contre ce risque de change avec une garantie, c'est devenu assez cher. De sorte que si on additionne le taux très bas de la BEI, qui peut être de 1-1,5%, à la prime de risque pour couvrir le risque de change, on est au-dessus de ce que peut offrir la Banque centrale tunisienne aux banques. Donc on est devenu un peu moins compétitif à cause du risque de change.
Le deuxième point.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il tient à la qualité des contreparties en termes de risque de crédit.
Et là, on parle des banques.
Et là, on parle des banques qui ont subi, à cause de la dégradation de la note financière de l'État, également une dégradation de leur note financière, puisque vous savez qu'une banque ne peut pas excéder la notation souveraine.
Exactement.
Ce qui fait que sans la garantie de l'État, il nous devient difficile, ou sans la garantie d'une maison mère extérieure, par exemple, il nous devient difficile de prêter à une banque tunisienne sur la base de son propre bilan. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment dommageable, puisque ça n'est pas intrinsèquement lié à la qualité de la banque. On sait très bien qu'il y a certaines banques tunisiennes qui sont en très bonne santé, qui ont de bons bilans, qui réalisent des résultats positifs. Mais on est contraint par cette notation souveraine qui nous empêche de traiter en direct avec, avec ces banques.
Donc réellement, on peut dire que la notation ou que la note des banques tunisiennes est, a bloqué quelque part le fonctionnement, l'ancien fonctionnement des BBFI, comme
alors,
ou la création des
lignes de crédit. Effectivement, le fonctionnement à l'ancienne, je dirais. Donc il faut qu'on essaye de trouver des mécanismes qui nous permettraient de recommencer à travailler avec des banques. Et encore une fois, c'est pas la fin en soi n'est pas de travailler avec les banques. L'objectif, c'est
financer les PME. Exactement.
Donc on a des discussions en cours avec la Banque Centrale, avec le ministère de l'Économie et de la Planification et le ministère des Finances pour essayer de trouver un mécanisme qui nous permettrait de prêter à l'État, en quelque sorte, pour ensuite prêter aux banques et aux PME qui ont besoin de financement.
Donc c'est en cours de négociation.
C'est en cours de discussion, pas simplement avec la BEI, mais également avec d'autres institutions internationales.
Alors, et la troisième partie, c'est la partie qui concerne le secteur privé. Vous n'êtes pas vraiment concentré sur le secteur privé, c'est une politique de la BEI, de la part de la BEI, ou plutôt c'est une question de demande sur le marché?
En fait, c'est plutôt une question de demande et une question de visibilité. Parce qu'en réalité, si on regarde par exemple les financements accordés par la BEI donc au secteur privé, que ce soit à travers les banques dont on vient de parler, que ce soit à travers les fonds d'investissement, vous savez qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement établis en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs, qui supportent, qui soutiennent les entreprises tunisiennes en fonds propres. Donc là, également, la BEI a été un investisseur assez important dans ces fonds qui ont eux-mêmes investi en Tunisie au cours des 10 dernières années. Et si on regarde le portefeuille de ces sociétés, on est assez étonné. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'entreprises tunisiennes qui sont très connues, qui ont bénéficié indirectement d'un financement BEI. Ça, c'est pas très connu en réalité. Donc j'essaie de mettre ça en avant. Et quant au prêt direct au secteur privé, effectivement, c'est pas une activité qu'on a développée énormément dans le passé, parce que la BEI souffrait, je pense, d'un déficit de notoriété dans ce secteur-là. On allait forcément voir la BEI quand on avait un besoin de financement. On essaye d'y remédier. On a signé l'année dernière un deuxième prêt avec le groupe OneTech.
Exactement.
Vous avez certainement entendu parler.
Mais ça reste toujours des exceptions quand même.
Alors, ça reste des exceptions parce que, pour deux raisons principales. La première, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui est le financement en devise. Donc, pour qu'on puisse prêter en devise à un groupe tunisien, il faut que ce soit un groupe exportateur. Que le groupe ait des recettes en devise qui lui permettent de rembourser la dette de la BEI en euros ou en dollars. Donc ça, c'est le premier élément. Des groupes exportateurs, il y en a, mais pas des centaines. Et le deuxième élément, c'est que la BEI intervient pour des montants relativement élevés. En général, les prêts de la BEI ont un montant minimum de 10-15 millions d'euros. Et comme on ne finance jamais plus de 50% du coût d'un projet, ça veut dire que le coût d'investissement du projet, il est de 20 ou 30 millions d'euros. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des entreprises qui investissent 10, 20 millions d'euros dans des investissements.
Bah, c'est une question d'ambition aussi par rapport aux entreprises tunisiennes. Il y a quand même, on peut considérer qu'il y a des groupes relativement intéressants, importants en Tunisie.
Il y en a bien sûr, et on est en discussion avec eux. Je ne peux pas les nommer parce que les discussions n'ont pas encore abouti, mais on a un certain nombre de discussions en cours avec des groupes tunisiens qui remplissent ces conditions, donc ils sont exportateurs et qui ont toujours des projets d'investissement. Il faut reconnaître que la situation, je dirais, macroéconomique, elle n'est pas facile. Donc indépendamment de ces deux critères dont je viens de parler, La situation n'incite pas forcément à l'investissement. On le voit dans le budget de l'État. Quand on voit la quote-part allouée à l'investissement, c'est
4 milliards,
4
de
milliards sur 57 ou 58 milliards de budget. C'est rien du tout. C'est même pas 7% du budget. C'est très dommage. Et moi, je considère qu'effectivement, on ne pourra sortir de cette situation que si on continue d'investir. C'est-à-dire qu'emprunter uniquement pour payer les dépenses courantes, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit l'État, c'est pas forcément une situation saine sur le long terme.
Après avoir présenté un petit peu les différentes catégories de prêts, si j'ose dire, je crois que ce serait bien aussi de parler d'un point très intéressant et que vous avez mentionné dans plusieurs interventions médiatiques, quand vous parlez de la suspension de quelques financements ou l'arrêt de quelques financements, il y a quelques problèmes de décaissement aussi. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est directement lié à la situation générale du pays?
Je ne dirais pas que c'est lié à la situation du pays. En réalité, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est que les projets qu'on finance sont des projets qui se développent sur de nombreuses années. Entre l'idée du projet, la réalisation des études de faisabilité, des études d'impact environnemental, social, etc. et la réalisation du projet, il s'écoule un délai relativement important. Et dans le passé, on a pu signer un certain nombre de contrats de financement assez tôt dans ce cycle de projet. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des montants signés et non décaissés qui sont très importants. On a, je le répète souvent, à peu près un tiers de notre portefeuille de prêts qui n'est toujours pas décaissé. Donc ça tient au fait que le cycle de projet est long et qu'on a signé probablement trop tôt par rapport à ce cycle de projet. On aurait dû réaliser les études avant la signature, alors qu'on a fait plutôt le contraire.
Quand vous dites un tiers, on parle d'un milliard d'euros, à peu près.
À peu près un milliard d'euros sur les 3 milliards qui ont été signés au cours des 15 dernières années. Donc ça représente un montant relativement important. Encore une fois, la BUI n'est pas la seule institution à être dans cette situation. Et quand on additionne les montants non décaissés des différentes institutions, on dépasse les 5 milliards d'euros. C'est un montant qu'on a déjà mentionné tous ensemble. Donc ça représente une manne relativement importante pour l'économie tunisienne, parce que si ces montants sont décaissés, bien sûr, ils sont directement injectés dans l'économie du pays. Et ce sont des montants qui vont payer des entreprises sous-traitantes sur un certain nombre de chantiers et générer des recettes fiscales, etc.
Mais réellement, la principale cause, c'est une cause locale, purement nationale, interne à la Tunisie.
La cause dont je viens de parler, c'est une cause, c'est un problème de timing dans la signature. Il n'est pas propre ni à la Tunisie et il n'est pas à la charge de l'emprunteur. C'est une responsabilité partagée, je dirais. Le deuxième élément, c'est un problème de capacité d'exécution. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de promoteurs, notamment promoteurs publics, souffraient d'un manque de capacité pour pouvoir exécuter des projets complexes et surtout mettre en application les règles des bailleurs de fonds, y compris celles de la BUI qui sont probablement assez exigeantes, notamment en matière d'appel d'offres, de marché public, en matière sociale, en matière environnementale, en matière de respect des normes hygiène-sécurité sur les chantiers. On a des normes qui vont au-delà de ce que prévoit la législation tunisienne. Et même si elles étaient annexées au contrat signé, en réalité, quand on passe à la phase de mise en œuvre, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les experts sociologues, les experts en marché public, les experts en environnement.
C'est ce que j'allais mentionner en fait. Qu'en point, tout ça, c'est écrit noir sur blanc, ça a été signé, l'accord a été fait, et puis lors de l'application de tout ça, ça ne se concrétise pas, c'est ça?
Disons que ça prend du temps à se concrétiser. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on l'avait imaginé au départ. À la fin, on le fait, c'est-à-dire qu'on ne renonce jamais à ces conditions. On peut y renoncer temporairement, mais sur le principe, on n'y renonce pas. De sorte que le temps que ces équipes se mettent en place, le temps qu'elles soient formées, le temps que la BUI vienne aussi apporter son soutien aux équipes, il s'écoule de nombreuses années, ce qui fait qu'on subit un retard très important par rapport au calendrier initialement prévu.
Alors, je vais faire un petit peu le lien avec ce que vous avez cité tout à l'heure. Vous avez parlé de l'investissement, de la situation actuelle en Tunisie. Et le vice-président de la Banque européenne d'investissement était sur Tunis depuis quelques temps. Et il a parlé de la libération du potentiel économique en Tunisie. Il a parlé du rôle de l'État tunisien qui a un rôle important à jouer. Et il a déclaré qu'il est nécessaire que l'État s'assure de la confiance des investisseurs et des partenaires financiers en procédant aux réformes structurelles nécessaires, etc. Vous trouvez qu'aujourd'hui la situation, elle inspire confiance en Tunisie ?
On est dans une phase de discussion. Le gouvernement est dans une phase de discussion avec un certain nombre de partenaires. Le premier d'entre eux, c'est le FMI. Bien sûr, on le sait tous. Moi, j'ai confiance. Je pense qu'un accord sera trouvé et ça va être un élément déclencheur pour rétablir un petit peu cette confiance. On sait que le gouvernement souhaite également libéraliser un certain nombre de secteurs. On voit qu'il souhaite supprimer un certain nombre d'autorisations. Donc ça, ce sont des signes qui sont très encourageants pour renforcer la confiance d'investisseurs privés. On a vu récemment, par exemple, l'annonce des concessions pour les 500 mégawatts production d'énergie solaire. Ça, c'est un signal très fort envoyé, et l'annonce d'un nouveau programme de 1500 mégawatts, ça, c'est un signal très fort envoyé à des investisseurs. Pour moi, ça, c'est un secteur clé dans lequel la Tunisie peut encore attirer des investisseurs de renommée, le secteur des énergies renouvelables. Donc c'est très important d'envoyer ce genre de signal à la communauté internationale pour dire qu'indépendamment des difficultés que le pays rencontre, qui sont indéniables, il y a un certain nombre de secteurs qui restent suffisamment attractifs pour les investisseurs, pour attirer des montants relativement importants. Et nous-mêmes à la BEI, on est contactés assez régulièrement par un certain nombre de groupes étrangers qui regardent le secteur des énergies renouvelables, qui regardent le secteur de l'hydrogène vert notamment, parce que la Tunisie a évidemment un potentiel très important dans la fabrication de ce genre de combustibles non fossiles, spécialement en vue de son exportation vers le marché européen.
Une courte page de pub et on continue notre interview juste après.
L'interview.
Nous allons avancer avec notre invité Jean-Luc Rivreau, ممثل البنك الأوروبي للاستثمار في تونس. Bienvenue encore une fois. Merci. Alors, on parle justement des investissements et des financements de la Banque européenne d'investissement. Et on parlait tout à l'heure de la dernière visite du vice-président de la BEI, de ses déclarations par rapport à la confiance des investisseurs. Vous avez dit que vous avez confiance en Tunisie, mais la situation, elle n'est pas la meilleure, ça c'est clair. La Tunisie a toujours, ou a depuis toujours, honoré ses engagements envers la banque. Vous avez dit ça, vous avez déclaré ça depuis quelques temps. Aucun manquement n'a été commis dans ce sens par l'État tunisien. Il n'y a jamais eu de défaut de paiement de la part de l'État tunisien tout au long des 4 décennies de coopération, ça c'est clair. Alors je vous pose la question, monsieur Rivreau, pensez-vous de la même manière aujourd'hui, la Tunisie étant classée pays à risque élevé, puisque la note souveraine, vous le savez très bien, de la Tunisie vient d'être dégradée de la part de Fitch Rating récemment, à part les dernières dégradations. La dernière, c'était en fin d'année, de la part de Moody's.
Absolument. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, on n'a pas de raison de penser que la Tunisie fasse défaut sur aucune de ses dettes. Ça serait évidemment un élément désastreux, je dirais, pas simplement pour nous. Ça entraînerait, comme vous le savez, tout un tas de conséquences en chaîne, puisque en général, dans les contrats de prêt des bailleurs, il y a des clauses de défaut croisé ou d'accélération croisée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais qui fait que faire défaut sur un prêt, ça serait faire défaut sur l'ensemble. Donc moi, je suis convaincu que le gouvernement tunisien fera tout pour éviter un défaut. Donc ça, c'est même pas quelque chose qu'on imagine, au point qu'on travaille évidemment sur de nouvelles opérations. Si on avait le moindre doute, on arrêterait immédiatement de travailler sur de nouvelles opérations. On a des prêts qui sont en cours de signature, de négociation en tout cas, et on n'a absolument pas prévu d'arrêter ces négociations.
Donc justement, là, vous me dites que vous travaillez sur des nouveaux contrats, de nouvelles signatures, qu'il n'y a pas de suspension de décaissement suite à une dégradation quelconque qu'on a connue.
Je vous le confirme.
Voilà, c'est clair. Bon. On parlait justement de la diversification des activités, de l'avancement. Vous avez dit que vous êtes en train de travailler là actuellement sur de nouveaux contrats. Mmh. De quel type de contrat on parle ?
Alors, on a un certain nombre de projets qui sont bien avancés. On travaille notamment avec la STEG sur un projet pour renforcer le réseau de distribution et de transport d'électricité. Ce n'est pas directement lié à la production d'énergie renouvelable, mais ça va l'être à terme. Il faut renforcer le réseau pour pouvoir acheminer effectivement l'électricité qui sera produite par les producteurs indépendants. Donc ça, c'est un cofinancement avec la Banque mondiale sur lequel on travaille et on espère pouvoir signer le contrat de financement dans les mois qui viennent. On travaille également avec le ministère de l'Éducation pour continuer justement le programme de rénovation des établissements scolaires. La première opération portait sur le secteur secondaire, sur l'enseignement secondaire. On souhaiterait mettre en place un prêt du même ordre pour l'enseignement primaire, qui a des besoins encore plus importants. Donc ça, c'est une opération qu'on souhaite également poursuivre. On a également une demande de la SNCFT pour mettre à disposition un financement justement pour moderniser un petit peu le réseau ferroviaire et sécuriser un certain nombre de points critiques dont on voit qu'ils sont absolument nécessaires, en fait, ces modernisations. Mmh. Voilà, donc ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille actuellement. Je dirais que en termes d'orientation, ce qu'on souhaite faire dans les mois et les années qui viennent, c'est évidemment accompagner le gouvernement tunisien dans ses investissements prioritaires, particulièrement dans le secteur de la transition énergétique. Donc ça inclut évidemment le renforcement du réseau électrique, ça inclut l'efficacité énergétique des bâtiments publics, ça inclut l'éclairage public. Là encore, on pourrait générer des économies très importantes si on investissait dans l'éclairage public, en remplaçant simplement les ampoules des lampadaires. On pourrait générer des économies qui sont très vite amorties et qui sont ensuite des économies sur de nombreuses années. Donc là, ça, c'est une opération aussi qu'on est en train de discuter avec un certain nombre de contreparties, le ministère de l'Énergie, la NME, etc.
Il y a beaucoup de projets par rapport à la transition énergétique en Tunisie.
Absolument, absolument. Disons que, encore une fois, compte tenu de la faible capacité d'endettement de l'État, il faut être très sélectif. Et je pense que les projets qui sont susceptibles de générer des économies rapides, et l'efficacité énergétique, c'est un type de projet qui peut générer des économies compte tenu du prix de l'énergie qu'on voit actuellement, ce sont des projets prioritaires. Donc, mettre l'accent sur ce type de projet, c'est un investissement très rentable et qui a beaucoup de sens dans les années qui viennent. Ensuite, il y a tous les investissements que le secteur privé ne pourra pas faire. Donc quand on parle d'éducation ou de santé, ce sont majoritairement des investissements publics. Donc là, on essaie également d'accompagner l'État. Par contre, partout où on peut faire intervenir le privé, sous forme de partenariat entre le public et le privé, sous forme de concession, on essaye évidemment d'aider le gouvernement à structurer des opérations pour attirer des investisseurs, que ce soit dans la gestion des déchets par exemple, qui est un secteur où on peut faire intervenir un certain nombre d'investisseurs privés ou dans d'autres secteurs.
Donc la majorité de ces secteurs ou de ces projets, c'est des projets liés au secteur de l'énergie ou des énergies renouvelables essentiellement. Et là, puisqu'on parlait de nouveaux projets, est-ce que c'est une nouvelle orientation de la part de la BUI, une nouvelle politique ?
Alors effectivement, c'est une relativement nouvelle orientation, puisqu'en 2020, la BUI a décidé de stopper le financement d'un certain nombre de projets qui n'était pas en ligne avec l'accord de Paris signé lors de la COP21.
Projets qui ont été déjà signés.
Alors les projets qui ont été signés, ils continuent. On a par exemple financé ici en Tunisie un certain nombre de projets dans le secteur gazier. On n'a pas demandé le remboursement anticipé de ces prêts. On va continuer à les financer comme initialement prévu. En revanche, ces projets ne pourraient probablement plus être financés à partir de maintenant. On se concentre sur des projets qui n'émettent pas de CO2 au-delà de certains seuils. Par conséquent, ce sont les projets dans le secteur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, mais de l'environnement au sens large. Quand on parle de déchets, d'assainissement, le secteur de l'assainissement est un secteur dans lequel la BUI est très présent et dans lequel on souhaite encore faire plus pour pouvoir améliorer la performance des unités de traitement des eaux. On voit la situation un petit peu alarmante des fois dans certaines stations qui font des rejets en mer d'eau non traitée. Donc là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce secteur et c'est un secteur dans lequel la BUI est effectivement très active. Le secteur de l'approvisionnement en eau, encore une fois, quand on parle de faire des économies, si on remplace un certain nombre de conduites qui sont poreuses par des conduites récentes, neuves, on va réaliser des économies et on sait que l'eau, c'est quand même une ressource précieuse.
Ça va devenir une ressource rare.
Hein. Absolument. Donc ça, ce sont des investissements qui sont absolument indispensables et qui vont générer une rentabilité économique, sans parler de l'impact social, bien sûr, très important.
Alors, paradoxalement, en février dernier, la BUI a annoncé qu'elle ne pourra pas verser en intégralité le prêt accordé par la Banque européenne d'investissement au groupe chimique tunisien, dans un cadre semblable pour la mise à niveau environnemental des sites de Mzila et de Srira en raison des retards pris par le promoteur, etc. Mais quand même, ça reste un projet directement lié à tout ce que vous étiez en train d'expliquer là.
Alors en fait, ce n'était pas une décision récente. Je l'ai juste rappelé en février, mais c'est une décision qui a été prise il y a déjà plus d'un an, un an et demi je crois. Qui a été prise parce que on a revu complètement le périmètre du projet. On était parti sur un projet très ambitieux en cofinancement avec l'Agence française de développement et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de ce projet qui nous ont conduit à revoir à la baisse le périmètre de ce projet. Et comme la BUI ne peut pas financer encore une fois plus de 50% du coût du projet, on a annulé le reliquat du prêt qui n'avait pas été versé pour ne pas dépasser ce plafond de 50% du coût du projet.
Donc finalement, c'était une question de difficulté de réalisation, si je peux dire, c'est ça, essentiellement ?
Difficulté de réalisation, retard dans la mise en œuvre, un certain nombre de problèmes dans les passations de marché, et également du retard dans la transmission d'informations qu'on attendait sur la mise en œuvre des projets.
Un autre projet intéressant aussi qui a été demandé de la part du président de la République, c'est le projet du TGV, mais qui a été décliné de la part de la BUI.
Alors, c'est pas tout à fait exact.
Ah, alors, dites-moi ce qui est exact.
J'ai effectivement lu des titres dans la presse qui prétendaient qu'on avait rejeté ce projet. Ce n'est pas tout à fait le cas. Comme je le disais tout à l'heure, le secteur ferroviaire, c'est un secteur prioritaire. On estime qu'en Tunisie, le potentiel est très important pour mettre à niveau le réseau ferroviaire et pouvoir assurer une mobilité entre les gouvernorats avec le train. Un projet de TGV, c'est un projet qui se prépare de nombreuses années à l'avance. C'est un projet coûteux, très ambitieux, qui nécessite un certain nombre d'études. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que c'était effectivement pas un projet immédiat. On ne pourrait certainement pas financer un TGV dans les années qui viennent. Mais par contre, on était prêt à travailler avec le gouvernement tunisien pour procéder par étapes, c'est-à-dire mettre le réseau ferroviaire à niveau pour pouvoir à terme bénéficier d'une ligne à grande vitesse. Une ligne à grande vitesse, forcément, elle a des gares qui sont très espacées. Ça ne sert à rien d'avoir des gares toutes les 20 km. Par contre, il faut un réseau suffisamment dense pour que, entre les grandes gares, les gens puissent rentrer chez eux. Donc ça nécessite une premièrement, une mise à niveau. Ensuite,
donc la priorité, c'est essentiellement améliorer le réseau déjà existant.
Exactement,
c'est ça.
Améliorer l'existant avant de penser à un projet qui serait complètement déconnecté de ce réseau existant et qui n'aurait aucun sens. Il faut qu'il soit complètement lié au réseau existant. Mmh. Ensuite, un projet de ce type, il n'a du sens que si c'est un projet régional. Faire Bizerte, Sfax, Djerba en TGV, c'est bien, mais ça serait encore mieux si on pouvait faire...
TGV Maghreb, c'était,
Alger,
c'était ça.
Tunis, ouais. Tunis, Tripoli, là ça a beaucoup de sens. Donc ça s'inscrit dans un projet qui pourrait être beaucoup plus ambitieux, mais qui nécessite bien sûr une concertation avec les voisins. On a financé une partie de l'autoroute transmaghrébine.
Mais c'est un projet déjà existant en fait.
Qui existe. Ouais. On pourrait faire la même chose avec effectivement une ligne ferroviaire transmaghrébine. Ça aurait encore beaucoup plus de sens.
Mais finalement, ça, tout ce que vous étiez en train d'expliquer là, ça reflète un petit peu le fait que le projet a été rejeté. Parce que réellement, on n'a pas, si je peux synthétiser un petit peu vos propos, c'est que le projet en Tunisie, un projet de TGV en Tunisie, ce n'est pas le bon projet actuellement.
Actuellement, c'est le mot qui convient. C'est probablement le bon projet, mais pas en 2022.
Pas en 2022,
mais... 2032 ou en 2042.
Mais ce n'est pas un projet national, ça doit être un projet régional,
disons
un projet maghrébin.
Il doit s'inscrire dans une perspective régionale. Sinon, effectivement, il aurait beaucoup moins de sens.
Parfait. Alors, pour conclure avec vous, monsieur Jean-Luc Révraud, en deux mots, est-ce que vous pouvez décrire la situation actuelle de la BUI comparée aux 42 ans que vous avez passé, que la BUI bien sûr a passé en Tunisie?
Disons que j'ai la chance d'être en Tunisie à un moment particulièrement intéressant. La situation n'est pas forcément facile, c'est pas effectivement des années fastes. On a eu certaines années où on pouvait signer jusqu'à 500 millions de prêts par an. En 2021 et 2022, on a signé des montants de l'ordre de 40 à 60 millions d'euros par an. Donc ça, c'était pas une grande année en termes de volume. Mais cela dit, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de faire une pause. De ne pas ajouter de nouvelles dettes au stock de dettes existantes, de travailler sur le décaissement des prêts existants. Ça, c'est ma priorité et je pense que c'est le moment de le faire. Et deuxièmement, de prendre le temps de sélectionner les projets qu'on va pouvoir financer dans les années qui viennent. Donc d'être beaucoup plus sélectif et de bien préparer ces projets pour qu'au moment où on signe les contrats de financement, on puisse les décaisser assez rapidement. Donc éviter un petit peu les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une période qui de crise, certes, une crise économique, sanitaire,
institutionnelle. Est-elle la période la plus difficile ?
C'est une période qui peut être mise à profit pour repartir sur de nouvelles bases.
Est-elle la période la plus difficile ?
Alors, j'étais pas là pendant toutes les 40 dernières années,
enfin,
mais
avez
je pense
une,
que c'est une
idée
des périodes les plus difficiles. Mais c'est pas propre à la Tunisie, hein, c'est propre évidemment à la région et je dirais presque au monde.
Jean-Luc Révraud, ممثل البنك الاستثماري الاوروبي للاستثمار في تونس. ميرسي اونكور اون فوا يعطيك الصحة بالعربي اون اغاب جو لو دي. ميرسي اونكور اون فوا شكرا لك على حضورك بحضنا. ميرسي للناس الكل اللي تبعتونا. مازلنا مواصلين معكم حتى المطلثة الوقت عندنا ساعتين و 18 دقيقة. حديثنا بعد لحظات باش يكون حول الاقتصاد الرقمي ورقمنة الاقتصاد اللي نجم يحسن وضعية البلاد على المدى الطويل لكن تحديدا القارة الافريقية والتحديد اكثر شمال افريقيا. اقعدوا معنا راجعين بعد شوية مع ضيفنا خالد الطيب المستشار في الاقتصاد الرقمي والرقمنة.